Nouveau journal des Amériques présenté par Anne Verdaguer. Bonjour Anne.
Bonjour Marion, bonjour à tous. Au sommaire de ce journal, le discours de Donald Trump à Washington hier soir, très virulent envers son adversaire Joe Biden, le président américain qui lançait officiellement sa campagne électorale pour les élections du 3 novembre prochain dans un contexte explosif aux États-Unis où les manifestations antiraciales se poursuivent. Notre invitée tout au long de ce journal sera Marie-Cécile Nave, directrice de recherche à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. On reviendra aussi avec elle sur cette convention républicaine cette semaine. A-t-on une idée un peu plus précise aujourd'hui du programme des Républicains pour ces élections? On en parlera avec Marie-Cécile Nave. On vous parlera également de la rentrée qui se profile en Amérique latine en pleine épidémie de coronavirus et le journal des Outre-mer comme tous les jours en fin de journal avec Benoît Ferrand.
De nombreuses villes gouvernées par les démocrates sont marquées par des violences et le danger. Si la gauche arrive au pouvoir, elle va anéantir les banlieues, confisquer vos armes et nommer des juges qui mettront fin au Deuxième Amendement et à d'autres de vos libertés inscrites dans la Constitution. Biden est un cheval de Troie du socialisme. L'aspect le plus dangereux de son programme, c'est de s'attaquer à la sécurité publique. Sachez-le, si vous donnez le pouvoir à Joe Biden, la gauche radicale coupera les financements de la police à travers tout le pays. Dans l'Amérique de Biden, personne ne serait en sécurité.
No one will be safe in Biden's America.
Voilà Donald Trump hier dans les jardins de la Maison Blanche pour ce discours lors duquel il a formellement accepté la nomination de son parti pour un second mandat. Discours qui a duré 70 minutes en direct avec nous. Marie-Cécile Nave, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice de recherche à l'IRIS. On va revenir avec vous sur ce discours d'abord très offensif, on l'a entendu, vis-à-vis de son rival démocrate Joe Biden, orienté sur l'aspect sécuritaire, surtout après les émeutes de cette semaine à Kenosha dans le Wisconsin. Est-ce que le ton est donné pour cette campagne, Marie-Cécile Nave?
Oui, c'est une confirmation du ton qui est déjà celui-ci depuis plusieurs mois, c'est-à-dire, comme vous l'avez dit, une rhétorique axée sur la sécurité et aussi sur l'identité, la peur d'une identité perdue de l'Amérique. Biden menace votre mode de vie, menace le American way of life, ça veut dire en gros une Amérique patriarcale, blanche, fermée sur elle-même, qui est un peu nostalgique d'un âge d'or révolu des années peut-être des années 50 par exemple tout ceci pour masquer finalement les mauvais résultats économiques, l'isolement des États-Unis sur la scène internationale. Et ce qui est très intéressant, c'est que finalement il menace il dit il y a une menace sur les États-Unis si Biden est élu. Regardez les émeutes qu'il y a dans la rue, la violence qu'il y a dans la rue si Biden est élu, eh bien ça sera ça. Or le président en place, c'est Trump. C'est sous Trump qu'on a ce climat de chaos social, de fait d'attiser, de souffler sur les braises des divisions et des clivages. Donc finalement, il reproche à un adversaire une situation que lui-même n'a pas forcément créée, mais en tout cas a largement entretenue et attisée.
Et ce discours sur Biden qui serait un anarchiste, le danger du socialisme finalement, est-ce que ça va avoir un écho auprès de ses électeurs?
Alors c'est vrai que décrire Joe Biden comme un dangereux anarchiste ou marxiste ou socialiste, ça peut prêter à sourire parce que ça lui correspond pas, même s'il a un programme sans doute beaucoup plus à gauche que Obama en 2008 ou que Clinton en 2016, mais enfin ça reste un candidat très centriste. Mais Trump n'a pas beaucoup de prise sur Joe Biden, donc c'est pour ça qu'il y a il le décrit de manière très très caricaturale. Parfois aussi il le décrit comme Joe l'endormi, il appelle Sleepy Joe l'endormi, qui est un peu paradoxal avec le fait de le présenter comme un dangereux marxiste. Il n'a pas vraiment de prise sur lui, donc il exagère, il le présente de manière très très exagérée dans le fait qu'il serait aussi la marionnette de l'extrême gauche, c'est-à-dire comme s'il était incapable lui d'avoir son propre programme, sa propre personnalité, qui serait une marionnette de l'extrême gauche. Et il en a pas trop parlé là, mais aussi de la Chine et de l'Iran, il le dit parfois.
Marie-Cécile Nave, vous restez avec nous, on passe à la revue de presse avec Christophe Paget. Bonjour Christophe.
Bonjour.
Les journaux bien sûr reviennent aujourd'hui sur ce discours de Donald Trump hier à la Maison Blanche.
Oui, gardez-moi dans cette maison, c'est le titre de une du New York Post, avec en fond la Maison Blanche, devant laquelle le président candidat a prononcé hier son discours. Un discours incendiaire remarque admiratif l'éditorialiste du très républicain journal, qui remarque que, justement, les républicains ont passé la plus grande partie des trois premières soirées de la convention à présenter des aspects plus doux et plus gentils de Donald Trump. Mais c'est le président qui parle en dernier, et ce jeudi, il était d'humeur combative. Un président qui, selon l'éditorialiste, a tellement tapé sur son adversaire Joe Biden que si cela avait été de la boxe, l'arbitre aurait eu pitié et arrêté le match. Peut-être et surtout parce que, semble dire l'immense majorité de la presse américaine, Donald Trump n'a délivré que des coups bas non réglementaires. Le discours de Trump était un raz-de-marée de mensonges et de réécriture de l'histoire, s'étrangle le Washington Post. En plus, s'indigne le New York Times, certaines de ses affirmations avaient déjà été discréditées par le passé.
Alors, les deux journaux ont d'ailleurs vérifié, fact-checké les 70 minutes du discours du président dans de très longs articles aujourd'hui.
Oui, Donald Trump a souvent exagéré ses propres actions et glissé sur ses échecs, tout en dressant un portrait inexact de Joe Biden et des démocrates, résume le New York Times, qui note ensuite impitoyablement exagéré, trompeur ou faux, sous les affirmations du candidat président. « Je n'aime pas beaucoup les démocrates ou Joe Biden », explique un éditorialiste de USA Today, « et je n'aime certainement pas les gauchistes ou les anarchistes. Il y avait donc beaucoup de choses dans le discours de Trump que je voulais aimer, mais vous ne pouvez rien croire de ce qu'il dit. » Et de développer avec rage, sur le Covid-19, Trump dit « Nous avons relevé le défi, je peux vous donner 180 000 raisons, le nombre de malades dans le pays, qui disent que c'est un mensonge. »
Et la presse note d'ailleurs que le discours de Donald Trump a été prononcé, Christophe, dans des conditions sanitaires problématiques.
Oui, des centaines de personnes à la Maison-Blanche pour le discours de Trump, malgré les règles de lutte contre le Covid, titre The Hill. Du coup, cela brouille les conseils de santé fédéraux et locaux sur la pandémie. En plus, l'écrasante majorité des invités n'ont pas été testés, rajoute le Washington Post. Bref, selon le journal, la soirée d'hier offrait à Trump une sorte de facsimilé tout à fait acceptable des conventions habituellement bruyantes et tapageuses qui avaient été annulées cette année pour cause de pandémie. Du coup, Donald Trump a donné aux millions de personnes qui regardaient ce programme à la télévision l'image que le président recommence à agir normalement, alors que la plupart des Américains ne le peuvent pas.
Marie-Cécile Nave, sur ces contre-vérités dans le discours de Trump, on en parlait un peu à propos de Joe Biden. Est-ce que vous-même, vous avez pu relever quelques parties qui vous ont marqué ?
Oui, par exemple, sur sa très bonne gestion de la crise du Covid, c'est pas vraiment ce qu'on peut associé à la vérité. Les États-Unis sont un des premiers pays touchés dans le monde. Et puis, par ailleurs, le président, en tout cas Washington, donc le président en tête, n'a pris aucune mesure sur la sécurité sanitaire des habitants. Donc, il peut critiquer les gouverneurs démocrates, les États démocrates, les villes démocrates. C'est au niveau des États et des grandes villes que les mesures de protection de la population ont été prises. Mais finalement, on est habitué à la manière dont Trump distord la vérité à son profit. Ce qui compte pour lui, c'est de maîtriser le récit, c'est d'être au centre du récit et de le maîtriser et d'imposer finalement le récit d'un président qui maîtrise tout, qui va très probablement, dit-il, trouver un vaccin peut-être avant les élections, qui va faire repartir l'économie. Ce qui compte, c'est le récit. Et c'est évidemment, il s'adresse à une base électorale qui est extrêmement galvanisée, dont il a besoin qu'elle se mobilise en masse pour aller voter, mais c'est un petit peu risqué du côté d'un électorat dont il a quand même besoin pour l'emporter, parce que c'est une élection qui s'annonce serrée, et en particulier les femmes conservatrices et les seniors de plus de 65 ans, plutôt du côté des indépendants ou des républicains modérés. Et ce sont deux catégories de population qui ont dit qu'elles ne faisaient pas confiance à Trump pour la gestion du Covid et qui sont très mécontentes de sa gestion du Covid. Donc c'est un petit peu risqué de continuer à présenter la manière dont il a géré la crise comme étant parfaite, parce que les gens dans leur vie quotidienne et autour d'eux voient bien que c'est un petit peu différent et même très différent.
Alors, la menace du chaos en cas de victoire de Joe Biden, on l'a entendu dans la bouche de Donald Trump, c'est l'un des arguments forts de sa campagne. À Kenosha, cette petite ville du Wisconsin, secouée par les émeutes après ce qui s'apparente à une nouvelle bavure policière dimanche dernier contre un jeune homme noir qui a reçu 7 balles dans le dos. Certains habitants sont sensibles à cette rhétorique de Trump, d'autres s'en inquiètent. Les pillages et les manifestations ont accentué les divisions au sein de cette petite ville du Wisconsin. Le reportage de notre envoyé spécial, Anne Corpé.
Carrie, 16 ans, a peint un arc-en-ciel à côté du signe Black Lives Matter sur les planches qui protègent une vitrine au centre-ville. Un symbole de paix, dit-elle tout sourire. Mais dans sa maison du bord du lac, Anna est terrorisée par les émeutes.
Je n'ai jamais eu aussi peur dans ma ville de toute ma vie. J'ai peur des émeutes organisées et du chaos. J'aimerais que le président Trump se taise un peu plus, mais quand je vois ce qui se passe dans ma ville, je suis heureuse d'avoir le droit de porter une arme. Je pense qu'il y a une majorité silencieuse et qu'on l'entendra le 3 novembre, parce qu'on veut pouvoir se défendre.
Juste en face, Katie arrose sa pelouse. Elle déplore les émeutes, mais soutient les manifestants et se garde bien d'en discuter avec ses voisins.
On parle de nos fleurs qui poussent, on se tient à l'écart de la politique, parce qu'ils n'aimeraient pas entendre ce que j'ai à dire. Ils m'ont proposé une arme au cas où j'étais nerveuse. Joe Biden est notre sauveur. Il a intérêt à être élu, ou sinon, on s'en ira. On déménagera au Canada si Trump est réélu.
If Trump gets back in.
Les hélicoptères sillonnent le ciel au-dessus de Kenosha, petite ville auparavant tranquille, mais désormais symbole des fractures de l'Amérique. Anne Corpet à Kenosha dans le Wisconsin, RFI.
Marie-Cécile Nave, quel impact selon vous sur les électeurs de cette colère ravivée au sein de la communauté afro-américaine ?
L'impact sera grand. Est-ce qu'il se traduira nécessairement dans les bureaux de vote? C'est pas sûr. Je veux dire par là qu'il y a quand même une partie importante de la population qui est très très sensible aux questions des violences policières et du racisme systémique aux États-Unis, en particulier la jeunesse politisée qui était pro-Sanders ou qui pro-Bernie Sanders, qui a manifesté depuis le printemps. Ça ne veut pas dire que c'est une jeunesse qui va voter, mais peut-être qu'elle ira parce que le sentiment anti-Trump est très fort. Et par ailleurs, vous avez, comme ça a été très bien montré dans le reportage, une minorité de gens qui a peur des Noirs, pour le dire très clairement, qui a peur des émeutes, qui veut sauver le libre port d'armes, qui a peur de la mixité sociale et raciale, et qui encore une petite minorité de cette minorité n'hésite pas à donner des gages aussi au suprémacisme blanc. On a quand même des mouvements de violences racistes qui sont qualifiés par le FBI de mouvements terroristes, mais c'est pas aussi manichéen que ça. C'est-à-dire que, et là c'est peut-être aussi une chose à laquelle Donald Trump gagnerait à faire attention, c'est que chez les républicains modérés, chez les indépendants, il y a une plus grande empathie qu'il y a peut-être 10 ou 15 ans vis-à-vis de la violence raciste, vis-à-vis de la manière dont les minorités ethniques sont traitées aux États-Unis. C'est pas les partisans de Trump versus les militants de Black Lives Matter. C'est pas ça l'Amérique. C'est plus compliqué. Et il y a une partie de la population qui est quand même sensible à ces discriminations, à ces violences contre les minorités et qui trouve que la gestion de Trump est pas très bonne. Et Trump ne parle pas de ça, c'est-à-dire que ça n'existe pas ni pour lui, ni pour Pence, ni pour le Washington, enfin le pouvoir en place. Les violences policières, ça n'existe pas, le racisme, ça n'existe pas. La seule chose qu'il dit, c'est les Noirs sont dangereux, vous voyez, ils risquent de menacer vos banlieues résidentielles. Et ça, c'est un discours qui s'adresse aux femmes blanches des banlieues résidentielles.
Merci beaucoup, Marie-Cécile Nave, directrice de recherche à l'IRIS.
Le journal d'Haïti et des Amériques.
Et on vous retrouve, Christophe Paget, pour la suite de la revue de presse des Amériques, direction le Venezuela. Christophe, où l'on se pose beaucoup de questions sur la rentrée scolaire en ces temps de Covid-19.
Oui, le journal Dos Mil Uno annonce que le pays a atteint les 43 000 personnes infectées et près de 360 morts, selon les chiffres officiels. Mercredi, le président Maduro avait confirmé, rappelle la Voz, que la rentrée se ferait en septembre avec un mélange de cours à distance et de cours présentiels. Aujourd'hui, tout le monde ne semble pas du même avis. Toujours dans la Voz, le président de la FEDRAMAGISTERIO, un syndicat d'enseignants, affirme que 89% des enseignants affiliés à ce syndicat ne sont pas prêts à revenir à l'école car les établissements scolaires ne réunissent pas les conditions sanitaires minimum pour que les cours puissent se faire en présentiel dès septembre. Pourtant, souligne dans le journal local El Periodiquito Fernando Pereira, le fondateur des centres communautaires d'apprentissage, l'éducation à distance est difficile car le Venezuela est, selon lui, complètement à la marge, déconnecté. Mais pour autant, les conditions ne sont pas réunies pour le présentiel car nous sommes dans un moment de hausse des cas. Le retour dans les classes doit être décidé et évalué chaque semaine sans exposer les jeunes, l'idéal étant un retour semi-présentiel. En fait, il doit y avoir plusieurs modèles de rentrée, elle ne doit pas être la même dans tout le pays, estime Ultimas Noticias dans un éditorial. tout à distance dans les municipalités les plus touchées, 1 à 2 jours de présence des élèves en cours dans les autres. Bref, on le voit, beaucoup de questions se posent encore aujourd'hui au Venezuela, alors que la rentrée approche.
On termine, Christophe, avec l'Argentine et toujours le Covid-19. Parina Dossé fait sa une sur l'ultime adieu.
Oui, l'ultime adieu, c'est celui aux malades du coronavirus qui vivent leurs derniers instants. La ville de Buenos Aires a décidé hier qu'une personne de l'entourage pourra alors être présente à l'hôpital pour pallier à la peur et à la solitude des uns comme des autres, explique Parina Dossé, qui rappelle que depuis le début de la quarantaine dans la capitale, il n'y avait pas de protocole permettant cela. Depuis hier, c'est donc possible. Le nouveau protocole impose que les personnes qui visitent ces patients aient entre 18 et 60 ans, soient en bonne santé, ne soient pas des publics à risque et ne soient pas non plus enceintes. Les établissements de santé devront aussi avoir une équipe de professionnels à disposition pour accompagner ces familles.
Merci beaucoup Christophe Paget pour cette revue de presse des Amériques. L'actualité des Outre-mer à présent avec le journal La Première présenté par Benoît Ferrand. Bonjour Benoît.
Bonjour Anne.
À la une en Guadeloupe, la nouvelle municipalité de Pointe-à-Pitre affirme que les caisses sont vides et qu'elle n'a même plus de quoi payer les frais de climatisation.
Oui, plus grave, sa situation financière actuelle ne lui permettrait pas d'assurer la restauration scolaire, alors que la rentrée scolaire approche à grands pas. Bref, le nouveau premier magistrat de Pointe-à-Pitre, Harry Durimel, appelle à l'aide, purement et simplement.
La mairie de Pointe-à-Pitre est la seule qui fonctionne depuis près de 2 années à mi-temps, parce que nous ne pouvons pas payer la maintenance de la climatisation. Le personnel se retrouve à travailler dans des fours et on est obligé de fermer la mairie à 1h30. Il va falloir que l'État, qui a quelque part laissé faire, parce qu'en arrivé là, on aurait pu arrêter fermer le robinet depuis longtemps. Donc à ce titre, force est de reconnaître que ce qu'a fait M. Gustin a été salutaire, mais on peut penser que ça a été tardif. Il lui fallu qu'il y ait un préfet comme ça plus tôt. Pointe-à-Pitre ne serait pas dans cet état-là, je pense.
Nous appelons au secours parce que comme nous n'avons pas les deniers dans nos budgets, dans nos comptes pour le faire, nous avons appelé à la rescousse de la région. Le président Chalus a proposé une aide de 500 000 euros. C'est pas mal, mais c'est largement insuffisant.
Harry Durimel, le nouveau maire de Pointe-à-Pitre, le monsieur Gustin en question, c'est Philippe Gustin, l'ancien préfet de la Guadeloupe. Direction la Guyane maintenant et Saint-Georges-de-l'Oyapock où l'on prépare la rentrée, la commune de Saint-Georges à la frontière avec le Brésil, la commune de Saint-Georges confinée depuis maintenant 6 mois. Reportage à Saint-Georges, Antoine Defive.
Après une désinfection complète des 4 écoles de la ville, lundi, et une réunion avec les directeurs d'établissement le lendemain, la municipalité travaille d'arrache-pied pour essayer d'assurer une rentrée scolaire la plus normale possible. Léonard Siennon est responsable des services techniques de Saint-Georges de l'Oyapock.
Les maternelles, le port du masque ne sera pas obligatoire. Par contre, pour les élémentaires, si. Il y aura ça, ensuite il y aura la distanciation sociale, il y aura les savonnettes qui seront installées dans chaque partie sanitaire, donc chaque box sanitaire qui en comporte à chaque fois 2. Donc ça veut dire pour nous, la mairie, c'est un investissement assez conséquent.
Une rentrée qui s'annonce aussi particulière qu'incertaine, notamment pour les maternelles qui pourraient faire leur retour en classe seulement en janvier prochain. À Saint-Georges se pose aussi le problème des élèves brésiliens à l'heure où la frontière avec le pays voisin reste toujours fermée. Georges Elfort est maire de la ville.
Administrativement, les enfants pourraient être inscrits à Saint-Georges. Ils ont un habitat, ils habitent une attestation, ils habitent Saint-Georges. Moi, j'inscris des enfants qui ont remis des pièces, comme quoi ils demeurent à Saint-Georges.
Dès la semaine prochaine à Saint-Georges, près de 1000 élèves devraient faire leur retour sur les bancs de l'école.
Bon après-midi, Anne. Bon week-end. À lundi.
À lundi et bon après-midi à vous, Benoît Ferrand. C'est la fin de ce journal d'Haïti et des Amériques. On se retrouve lundi, 15h10, heure de Paris, 13h10 en temps universel. Bon week-end à tous.
Rejoignez la communauté de RFI sur les réseaux sociaux. Sur nos pages Facebook, vous pouvez suivre, commenter l'actualité et dialoguer avec vos animateurs préférés. Restez aussi connectés avec nous sur Twitter et découvrez nos dernières images sur le compte Instagram de la Radio Mondiale.